qu'elles soient sensibles, politiques, anonymes, bavardes, organiques, innocentes, engagées. La parole s'emballe, se déballe, se révèle et se délivre parfois comme un éclat d'âme. Aujourd'hui, celui de Carole Martinez.
On n'achète jamais un livre par hasard, je pense. Je l'ai acheté pour son titre, alors que j'allais chercher un roman qui devait paraître ce jour-là. Et juste à côté, il y avait Le Cœur Cousu. Et Le Cœur Cousu, je l'ai lu par bride. Et ça fait très très longtemps que je n'étais pas autant rentrée dans un livre. Et j'ai eu beaucoup de mal après, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le quitter.
Je voulais vous remercier aussi pour le livre que j'ai lu, qui m'a été offert par une amie et que j'ai aussi continué d'offrir.
C'est fou, hein,
et j'ai eu la surprise, 2 mois après l'avoir lu, d'aller chez mes parents et de voir que ma mère l'avait lu aussi dans un club de lecture. Donc c'est vachement intergénérationnel, oui, quand même, hein.
Le Cœur Cousu est un livre qu'on m'a donné. Ensuite, je l'ai redonné et je crois que ce livre a été aussi un livre passeur de main en main, de bouche à oreille. C'est comme ça, en tout cas, que je crois qu'il s'est aussi déployé, puisque c'était en 2007, tu dis que tu l'as écrit.
Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas écrit, il est sorti en 2007.
Il est sorti en 2007.
Mais j'ai mis un certain temps à l'écrire. Petite, ma grand-mère me racontait l'histoire de Frasquita Carrasco. Cette sonorité, c'était comme un abracadabra. Et j'ai décidé d'écrire quelque chose sur Frasquita Carrasco à peu près 15 ans avant la sortie du livre. C'était une sorte de plaisir, comme ça. Je me suis complètement laissée aller, je me suis complètement abandonnée dans l'écriture. Et j'ai écrit tout le long du parcours de Frasquita, sans me soucier de ce que ça ferait au bout. C'est un peu comme une sorte de patchwork, quoi, finalement. Trouver vraiment comment faire de ces morceaux de tissu épars un tissu plein. Essayer de travailler avec ces lambeaux, quoi. Voilà.
Carole Martinez, premier roman Le Cœur Cousu, aux éditions Gallimard.
C'était mon arrière-arrière-grand-mère qui, d'après la légende familiale, avait été jouée et perdue au jeu par son mari. Les villageoises, toujours d'après ma grand-mère, l'avaient réveillée en pleine nuit, lui avaient dit « Sauve-toi, Frasquita, ton mari t'a joué, t'a perdu. Prends les enfants dans la charrette à bras et traverse. Enfin, va-t'en, quoi. » D'après ma grand-mère, elle s'était pas arrêtée en arrivant à la mer. Elle avait traversé la Méditerranée à la rame. Puis elle était arrivée de l'autre côté en Algérie et elle était morte dans la misère. Clairement, on ne sait pas de quel village elle est partie. J'en savais rien. En fait, c'était une histoire pleine de trous. C'est extraordinaire pour une romancière, une histoire pleine de trous. Parce que ça permet justement de broder, de faire ce qu'on veut, quoi. C'est juste un motif très, très important. Et enfin, pour nous, hein, dans la légende familiale, et pour ma grand-mère, c'était une héroïne. C'était le matriarcat après à la maison. Hein. J'aime autant vous dire que de génération en génération, les hommes n'avaient plus leur mot à dire. Quand je lui demandais, mais où est-ce qu'elle a pris la barque? J'aime bien raconter ça parce que c'est tellement beau. C'est aussi la terre, les souvenirs de l'exil, c'est les souvenirs d'une terre perdue. Je lui demandais, mais où est-ce qu'elle a pris la barque? Et elle me disait, elle a pris la barque à Séville. Je disais, mais il n'y a pas la mer à Séville. Elle me disait, si, Il y a la mer à Séville. Je lui montrais sur la carte. Elle voulait pas me croire. C'était pas l'Espagne. C'était pas son Espagne. Vous voyez, c'était pas cette Espagne qu'elle avait perdue depuis des générations. Donc elle avait reconstruit totalement un pays. Et Santa Vela, donc moi je l'ai inventé. Bon, il se trouve que la langue espagnole, pour moi, c'était la langue interdite. Et moi, j'étais tellement fascinée et attirée par toute cette culture-là. Cette magie, c'était ça. Ma grand-mère croyait, c'était une femme croyante, mais c'était mêlé de tellement de superstitions, de petites choses, du quotidien, voilà, c'était sa cuisine à elle, quoi. C'était sa cuisine à elle. Et elle faisait aussi les prières. Alors, c'était important pour elle, c'est un truc qu'on a hérité de mère en fille, des prières en espagnol, qui ne devaient jamais être écrites, qui c'était des petites choses. Hein. Donc, je pense que ce frottement entre des choses qui sont très simples, très populaires, très, très archaïques même, archaïques, et le religieux, moi, du coup, ça m'intéresse. On voit à quel point les deux, le populaire et le christianisme, en fait, les religions archaïques et le christianisme, se sont constamment influencés l'un l'autre. Et comment la pratique des saints, en particulier, est une pratique qu'on retrouve dans des croyances bien antérieures. Frasquita Carrasco vit dans un petit village, Santa Vela, dans le sud de l'Espagne. Et on lui donne, à la puberté, une boîte. Et dans cette boîte, si on attend 9 mois, si on a la patience d'attendre 9 mois, dans cette boîte, il y a quelque chose qui représente un don. Et donc, elle attend 9 mois, et quand elle ouvre sa boîte, ce qu'il y a dans la boîte, c'est du matériel de couture. Et il se trouve que c'est une couturière de génie. C'est une femme extraordinaire, mais qui très vite se rend compte que c'est pas uniquement avec le tissu qu'elle peut travailler, mais qu'elle peut recoudre tout. Elle peut recoudre les êtres, elle travaille tout ce qui peut être cousu, tout ce qui peut être brodé, tout ce qui peut être recousu. Et donc elle travaille ça. Elle devient, c'est un petit village, hein, donc elle fait des choses magnifiques, ça devient un petit peu suspect tout ça. Donc elle commence à avoir une réputation de sorcière, ça se passe pas très bien. Et un jour, dans le poulailler, son mari trouve un œuf rouge. Et son mari, il est un peu fou. Il est charron, il est un peu fou. Et il dit, de cet œuf rouge sortira un poussin rouge. Et de ce poussin rouge, je ferai le plus beau coq de combat d'Espagne. De l'œuf rouge sort un poussin rouge, qu'il en fait un coq de combat absolument sublime. La seule chose, c'est que le coq, à chaque fois qu'il combat, il perd. Alors normalement, il devrait mourir, parce que, en Espagne, les ergots sont les ergots naturels, et ça crée des blessures qui sont difficilement réparables. Mais Frasquita, la couturière, est là, qui recoue le coq à chaque fois, ce qui fait que le mari peut rejouer, peut reperdre, et à un moment donné, il a tout perdu, il n'a plus qu'une seule chose à jouer, c'est sa femme. J'ai joué avec le masculin et le féminin, et dès le début, quand je cherchais ce à quoi, par exemple, avait été joué Frasquita, parce que j'ai demandé à ma grand-mère, mais elle a été jouée à quoi? Parce qu'on dit, elle est jouée à quoi? Elle a été jouée à quoi? Et mémé me disait, quand veux-tu qu'elle sache? Elle est partie avant le retour de son mari, hein. Donc j'ai cherché, et je suis tombée sur les combats de coq. Je me suis dit, dans le sud de l'Espagne, donc il y avait cette tradition de combats de coq, donc moi, ça m'amusait beaucoup, le coq contre l'aiguille. Voilà, il y avait quelque chose de cette bataille-là.
Frasquita observait la dentelière. Ainsi nommait-elle l'araignée qui avait élu domicile dans sa chambre, en se demandant si elle-même serait un jour capable de sécréter sa propre toile. La beauté vient de ces espaces vides, délimités par les fils. Révéler, cacher, désépaissir le monde. Ce qui est somptueux, c'est de voir au travers. La transparence, la finesse de la toile voile et encadre un morceau d'univers et ce faisant le révèle. Exposer la beauté d'un être en le couvrant de dentelle. Elle sentit tout ce qu'il lui faudrait encore apprendre et maîtriser, la couleur, le blanc, les tissus, la transparence. Frasquita travaillait avec soin. Ses doigts maniaient la rude étoffe avec des égards, une déférence, une grâce que les couturières réservent à la soie, au satin, au brocart. Ses mains caressaient la toile de lin comme on explore une peau, jouissant de la grosseur de son grain. Puis le fil traçait ses larges volutes dans l'air saturé de cette fin d'été. Des lignes colorées couraient sur les murs blancs. L'aiguille brillait un instant au soleil avant de plonger dans l'épaisseur de l'étoffe, ne laissant pour tout sillage qu'un fin point coloré, qu'une minuscule tache qui, petit à petit, s'épanouissait, gagnait la pâleur du drap.
Est-ce que tu sais coudre, Carole ? Est-ce que tu sais... pas du tout. Est-ce que tu as une pratique du fil ou pas du tout ?
Bah non, pas du tout. Non, je ne sais absolument pas coudre. Ça me fait plaisir d'ailleurs parce qu'il y a des brodeuses, des couturiers, des stylistes qui m'ont dit la robe de mariée de Frasquita Carrasco, magnifique, elle est magnifique, vous devez être une couturière. Ben non, absolument pas. Donc c'est la supercherie de l'auteur. Hein. J'ai toujours des choses un peu décousues, il me manque des boutons. Enfin bon, c'est l'horreur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je trouve que voilà comment c'est venu. Frasquita couturière, Frasquita Carrasco, en vérité, elle n'était pas couturière. Elle n'était rien de spécial. C'était une femme qui n'avait pas de qualité particulière, ou en tout cas, ses qualités ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Mais j'avais envie, en femme du 21e siècle, que de l'autre côté, une fois qu'elle aurait traversé la Méditerranée, elle puisse s'en sortir. J'étais malheureuse de savoir qu'elle était morte dans la misère. J'étais malheureuse de savoir ça. Je voulais lui donner une chance de se débrouiller toute seule. Et donc, je voulais qu'elle ait une sorte de métier, quoi, quelque chose. C'est quand je vous disais réparer. Hein. Bon, donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire ? Et j'ai pensé à mon cours d'ancien français quand j'étais... En fac, je détestais l'ancien français, mais du cours d'ancien français, j'ai retenu deux choses. J'ai retenu que le mot grand-mère n'existait pas en ancien français. Le mot grand-père existait, mais pas le mot grand-mère. Et pourquoi le mot grand-mère n'existait pas ? Parce que les grand-mères, de toute façon, même si elles faisaient des enfants très tôt, et même, eh ben, il n'y en avait presque pas. Il n'y en avait presque pas. Parce qu'elle finissait par mourir en couche à un moment donné ou un autre. Et finalement, arriver au stade de grand-mère, eh ben, c'était pas simple. Soit on n'avait pas d'enfants, et à ce moment-là, on pouvait vieillir plus facilement. Soit on avait des enfants, et puis on en avait jusqu'au moment où on mourait en couche. Donc en général, on ne devenait pas grand-mère. Donc ça, j'ai trouvé ça magnifique dans le cours d'ancien français d'apprendre ça. Juste sur la création d'un mot. Ce que ça peut nous ouvrir comme horizon. Et puis, l'autre chose que j'ai trouvée vraiment très, très belle, c'est quand elle nous a appris, enfin, moi, je ne savais pas, il y a souvent sûrement des gens beaucoup plus cultivés qui le savent, mais moi, je ne savais pas que le mot « texte » venait du mot « textile ». Et qu'en fait, le texte était une trame de mots. Et ça a été une révélation pour moi. Cette relation entre le texte, entre l'écriture et le tissu, sachant que le tissu est quand même... Et quand même, ce qu'on a laissé aux femmes pendant des siècles, le tissu, ce qui ne dure pas, ce matériau, les hommes ont eu la pierre et les femmes ont eu le tissu. Et j'ai trouvé ça magnifique, sans rentrer dans un discours féministe ni quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ça magnifique que on pense à Homère, on pense à Pénélope en train de... Vous voyez, et que le texte vienne du tissu. Et je me suis dit, elle sera couturière et comme ça, je vais pouvoir faire une relation entre le texte, ce que moi, je suis en train d'essayer d'écrire, et ce personnage qui, lui, brode, tisse, coud, recoud, voilà. Donc, à partir de là, tout était ouvert. Parce que la couture, c'est gigantesque, c'est énorme. C'est symboliquement, c'est d'une force absolument extraordinaire.
Le blanc, je crois que c'est quand même une couleur qui est très très présente. Est-ce que tu peux toi, pourquoi le blanc ? Pourquoi cette blancheur ? Pourquoi la robe ? Enfin, ça passe à travers la robe, mais il y a d'autres choses. Il y a toute la lumière que tu décris aussi dans Santa Bella. Il y a le caillou blanc, il y a la lumière de Clara. Il y a quand même quelque chose de très prégnant.
C'est encore un truc de gamine, je pense. Ah. Bah déjà, quand j'ai appris que le blanc, c'était toutes les couleurs, la lumière blanche, et qu'il suffisait de faire passer ça dans un prisme et on avait un arc-en-ciel. Ça, déjà, c'est des découvertes d'enfant, quoi. C'est quelque chose de magnifique de savoir que le blanc, c'est tout, alors qu'on a l'impression que, justement, c'est rien. Et que c'est le vide, c'est immaculé, mais pas du tout, c'est immaculé et ça contient tout. Pour rebondir sur la robe de mariée, quand je dis qu'elle n'est pas décrite, et que donc, du coup, tout le monde peut se l'inventer, et c'est pour ça qu'elle est belle, parce que chacun l'a fait à sa sauce, chacun la coud, chacun l'imagine, chacun l'invente, le blanc, c'est ça aussi.
Il y a des gens qui m'ont dit que le cœur cousu, c'est aussi une forme de conte. Enfin, il y a quelque chose comme ça, avec des personnages comme l'ogre. Il y a la Blanca, la gitane sage-femme. Enfin, il y a des figures comme ça qui font appel à notre enfance. J'avais noté. Donc, il y a la vieille mauresque, Nour qui disparaît. Dans le livre, à un moment donné, elle disparaît, comme le meunier disparaît aussi. Tu peux nous parler de ça, comment tu as construit ce, même si c'est autour d'histoire de ta grand-mère, comment à un moment donné tu as dessiné toutes ces figures, parce qu'elles sont très précises. C'est vraiment de la dentelle, ton livre, Carole. Et parmi nous, dans le public, il y a une dentelière qui a lu le livre, qui est Mylène Salvador. Je suis très contente qu'elle soit là. Pour elle, c'était effectivement des évidences. Tu peux nous dire un peu comment tu as construit toutes ces figures autour de Frasquita?
Alors, je me suis... Comme moi, les histoires, elles me sont venues par une femme qui lisait pratiquement pas. Hein. C'était donc ma grand-mère qui écrivait très très peu. Finalement, je suis issue d'une tradition orale. C'est ce que je dis. Je suis issue d'une grande conteuse. Cette femme, dans son tout petit espace, elle déployait des espaces gigantesques. En revanche, les figures dont tu parles, ce n'est pas des figures dont elle m'a parlé. Donc moi, je les ai ajoutées parce que j'ai eu envie de faire quelque chose qui soit justement de l'ordre du roman. Mais comme ça venait de la tradition orale, j'ai eu envie de travailler le conte. Et travaillant le conte, j'ai utilisé les contes les plus connus, ceux, quand je vous dis que ça venait de l'enfance, ceux de mon enfance, et les figures du conte. Donc l'ogre, par exemple. Et puis écrire... Il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui permet de, enfin en tout cas en ce qui me concerne moi, de ligoter la peur. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans le travail de l'ogre. Je me suis dit, l'ogre, celui qui dévore les chairs d'enfants, je me suis dit, mais pourquoi pas celui qui dévorerait les enfants sur le plan sexuel? Peut-être que c'est ça l'ogre. Peut-être que c'est ce monstre-là. La figure de l'ogre est une figure effrayante.
Alors, on va revenir sur Frasquita et aussi la transmission de cette boîte. Donc, en fait, il y a une boîte qui est donnée par la mère de Frasquita et dedans, il y a quelque chose où on attend 9 mois. Mmh. Et Frasquita, après, avec ses enfants, transmet la boîte et chacun a un don ou ça fait résonance, en fait, ça fait un complément, en quelque sorte, pour les enfants de Frasquita. Cette boîte...
Elle n'existe pas.
On a l'impression qu'elle est très grosse, des fois qu'elle est toute petite.
Non, la boîte n'existe pas. Les prières existent. Oui. Moi, je ne les connais pas parce que ma grand-mère m'a dit que j'y croyais pas et donc que je ne les méritais pas, qu'il fallait y croire. Et que moi, j'avais juste envie de les avoir pour pas qu'elles se perdent, quoi, comme une bibliothèque. C'était, mais bon, j'y croyais pas, donc j'y ai pas eu droit. Puis vers la fin de sa vie, elle voulait bien me les donner, mais j'ai raté la dernière semaine sainte, et donc j'ai pas eu les prières. Mais la boîte, elle, n'existe pas. Mais la boîte, c'est un matériau romanesque absolument extraordinaire. C'est un matériau romanesque parce que c'est comme une porte. Hein. quand on ouvre une porte, quand on ouvre une boîte. À chaque fois qu'on ouvre la boîte, il y a quelque chose d'autre. Mais c'est cette surprise-là. Vous voyez, cette surprise de l'ouverture. Donc la boîte, pour moi, c'est quelque chose de magnifique pour ça. Et ce que je voulais aussi montrer, c'est le temps. L'importance du temps. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance, je vois hein, moi-même en tant que mère, à essayer de, que les enfants, bon, ils montent leur qualité, quoi. Il faut qu'ils montent leur qualité assez vite. Hein. Il faut qu'ils soient bons à l'école, il faut que ceci, il faut que cela. Mais après tout, non. Je veux dire, chacun va à son rythme, il ne faut pas forcer les boîtes. Vous voyez ? Il ne faut pas essayer de chercher trop vite ce qu'il y a dans la boîte. Parce que dans l'histoire, si jamais on n'attend pas les 9 mois, il n'y a rien dans la boîte. Si on la force, il n'y a rien. Alors que si on attend, et ben si on attend, ça laisse le temps à cette chose, ce don, cette qualité d'exister. Chacun va à son rythme, il faut respecter le rythme. Et l'histoire de la boîte face à l'enfant, moi je trouve ça vraiment important, de respecter. Alors la boîte c'était ça pour moi. À chaque fois le don, ça peut se transformer en malédiction. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de gérer après cette qualité qui s'est révélée. C'est assez difficile parce que on sort de la normalité, on sort de la norme, quoi. À partir du moment où on est trop talentueux, il y a quelque chose d'un peu difficile. Donc là, on est dans le conte, hein, malgré tout. On reste dans le conte.
Écoutez, mes sœurs, écoutez cette rumeur qui emplit la nuit. Écoutez le bruit des mers. Écoutez-le couler en vous et croupir dans vos ventres. Écoutez-le stagner dans ces ténèbres où poussent les mondes. Depuis le premier soir et le premier matin, depuis la Genèse et le début des livres, le masculin couche avec l'histoire. Mais il est d'autres récits, des récits souterrains transmis dans le secret des femmes, des contes enfouis dans l'oreille des filles, sucés avec le lait, des paroles bues aux lèvres des mères. Rien n'est plus fascinant que cette magie apprise avec le sang, apprise avec les règles. Des choses sacrées se murmurent dans l'ombre des cuisines. Au fond des vieilles casseroles, dans des odeurs d'épices, magie et recettes se côtoient. L'art culinaire des femmes regorge de mystères et de poésie. Tout nous est enseigné à la fois, l'intensité du feu, l'eau du puits, la chaleur du fer, la blancheur des draps, les fragrances, les proportions, les prières, les morts, l'aiguille et le fil. Et le fil. Parfois, des profondeurs d'une marmite en fonte surgit quelques figures desséchées. Une aïeule anonyme m'observe qui a tant su, tant vu, tant tu, tant enduré. Les douleurs muettes de nos mères leur ont bâillonné le cœur. Les plaintes sont passées dans les soupes, larmes de lait, de sang, larmes épicées, saveurs salées, sucrées. Onctueuses larmes au palais des hommes. Opposant à la réalité une résistance têtue, nos mères ont fini par courber la surface du monde du fond de leur cuisine. Ce qui n'a jamais été écrit est féminin.
Quand ma grand-mère est morte, mon grand-père m'a dit « j'ai trouvé un cahier ». Au téléphone, il m'a dit « j'ai trouvé un cahier, il y a marqué « récit de ma vie ». Oh, je lui ai dit « s'il te plaît, pépé, envoie-moi vite le cahier, je voudrais lire ça ». Et donc c'était un petit bloc note orange, et j'ai ouvert, il y avait un grand titre, donc « récit de ma vie », puis j'ai tourné, il n'y avait qu'une seule page. Et la page, c'était « Je m'appelle Françoise Martinez, je suis née de, qui est née de, qui est née de. J'ai mes frères, tous les frères étaient nommés, les enfants de ses frères. » Et j'avais l'impression que « Récit de sa vie », c'était seulement la lignée. Vous voyez ? Et qu'en dehors de la lignée, en fait, cette femme n'avait pas pu exister. Ce que j'ai voulu exprimer quelque chose de cet ordre-là. Récit de ma vie, juste la lignée. Voilà, j'ai quelque chose d'assez douloureux pour moi. Je recoupe ça avec le titre du livre, parce que le titre n'est pas de moi. Moi, je voulais que ça s'appelle « La traversée ». Et la justification du titre, la vraie justification du titre, m'est arrivée encore une fois grâce à une lectrice. Et c'est une lectrice d'origine espagnole qui est venue me voir un débat comme celui-là, qui est venue me voir à la fin, qui m'a dit « Votre titre, magnifique ». Je dis « Il n'est pas de moi ». Elle me dit « Bah oui, mais il est beau ». J'ai expliqué. Elle m'a dit « Votre éditeur devait connaître la tradition ». Mais je dis « Non, à mon avis, il ne connaît pas la tradition ». Alors, c'est quoi? Et elle m'a dit « Les femmes lettrées, quand elles sentent que la mort arrive, les très vieilles femmes, elles se cachent pour broder un cœur. Il ne faut pas qu'on les surprenne. Et alors, elles brodent leur cœur, c'est un petit cœur, c'est comme, vous voyez, un petit coussinet. Et alors après, elles fourrent dans le coussinet des tas de petits bouts de papier. Et sur chaque petit bout de papier, il y a des secrets qui les concernent. Des choses qu'elles n'ont même pas racontées au padre. Et elles les mettent comme ça dans le cœur, et puis après, elles recousent le cœur, donc ça fait un petit coussin. Et au moment de leur mort, c'est leur fille aînée qui hérite de ce cœur. Et donc, on les garde. Alors, ce qui est fou, c'est quand il n'y a pas de fille. Quand il n'y a pas de fille, c'est les fils. C'est le fils aîné qui hérite du cœur de sa mère. Mais les fils, ils n'ont pas le droit de garder le cœur de leur mère. Ce n'est pas possible. Donc, à ce moment-là, il faut qu'ils le donnent. En général, ils le donnent à leur femme. Donc, vous imaginez la bru qui a tous les secrets de sa belle-mère, enfermée dans un petit cœur, juste gardé par un petit bout de fil de rien du tout. Et je suis tombée sur une autre personne qui connaissait cette tradition. Je lui ai dit, mais je ne peux pas croire, ce n'est pas possible. Forcément, la bru, elle ouvre le cœur. Et on m'a dit, non, elle n'ouvre pas. Je lui ai dit, quand elle n'aime pas sa belle-mère, elle le met au feu. Mais vous voyez, ça ne s'ouvre pas. Et j'avais la sensation que le cœur cousu, c'était un peu ça. C'était un peu ça.
Éclat d'âme, une émission réalisée par Sandre Delors et Édouard Potard. Les extraits musicaux sont de Angelo Debar, Les Frères Nardan et la bande originale du film Exil de Tony Gatliff. Le générique de General Dub.